Je me suis laissé dire que certaines personnes ont du mal à avoir le fil rouge de l'enseignement. C'est vrai que l'exercice de la charité dans la relation à l'autre, parce que c'est ça le thème de ces 2 années de Caritas, c'est très large. Alors, en commençant cette année par le discernement spirituel, comment dire, on rejoint la préoccupation de Benoît XVI, qui est que l'exercice de la charité se fasse dans la vérité. Caritas, c'est une veritatem. La charité, donc, dans la lumière de Jésus, dans le discernement, pour le vrai bien de l'autre. Donc, ça me semble incontournable que de traiter cette question-là. Alors, peut-être que on pourrait le faire d'une manière plus, comment dire, plus linéaire, mais en gros, quand même, on a traité dans la première partie essentiellement de l'intention, en se rappelant que le cœur est la racine des pensées. Et si je puis dire mystérieusement, je pense, selon ce que je regarde, c'est-à-dire selon le but ultime que je poursuis, je pense dans un sens ou je pense dans un autre. Nos pensées sont pas si pures que ça, quoi. Nos raisonnements sont pas si purs que ça. Ils dépendent fondamentalement de ce qui est l'orientation de notre cœur. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui ont un esprit faux, parce que leur intention n'est pas droite. Et la pensée dévie continuellement. De toute façon, on ne voit pas comment on pourrait bien voir ce qu'il faut faire si on regarde dans la mauvaise direction. Rien discerner le geste juste au moment juste. C'est logique, hein, la marche physique nous le dit, la personne. Pour faire le bon pas, il faut déjà qu'elle voit dans quelle direction il faut marcher. Donc, la purification de l'intention, ça a été le principe fondamental finalement du discernement. Et ensuite, dans un second temps, j'ai insisté sur le fait que l'intelligence, elle est fondamentalement passive, réceptive. Elle est un œil qui a besoin de lumière, elle doit se laisser éclairer. Et que la vérité, et là c'est vraiment Benoît XVI qui insiste beaucoup sur cet aspect-là, que la vérité, ça ne se produit pas, ça se reçoit, c'est un don. Benoît XVI revient régulièrement sur cette pensée que l'amour est un don de Dieu, et que la vérité est un don de Dieu, et qu'il est vain de vouloir produire ce qui doit se recevoir. Je rappelle que c'est les vérités les plus simples qu'on a le plus de mal à comprendre. Donc, ce que je dis est peut-être basique, mais moi personnellement, je sens que j'ai encore à m'enfoncer dans ces vérités, notamment pour penser moins. Je pense trop encore. Si j'arrivais à plus rentrer dans le silence de l'esprit, seulement qu'il y a des pensées qui pourraient naître, qui ont du mal à naître en moi parce que je raisonne trop encore. Ceci dit, en dehors de la Sainte Vierge, on est tous comme ça. Plus ou moins. C'est-à-dire à agir et à penser de nous-mêmes. Alors, maintenant, dans ce troisième enseignement et dernier sur le discernement spirituel, on va être plus dans des critères de discernement spirituel. Ouais. On fait les choses selon les grandes lignes. Hein. On ne va pas reprendre toutes les critères que donne Saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels, toutes les indications précieuses qu'il donne, mais on essaye de comprendre les critères essentiels. Mais avant de voir les critères sur lesquels on peut s'appuyer pour discerner qu'une inspiration vient bien de Dieu. Je voudrais rappeler quelque chose qui est présent chez Saint Ignace de Loyola, mais aussi peut-être de manière encore plus insistante chez Saint Jean de la Croix. Le fait qu'il peut y avoir un danger de rechercher par mode de révélation, par mode d'inspiration divine, de rechercher dans la prière des signes de Dieu par rapport à des questions qui relèvent de ce qu'on appelle traditionnellement la droite raison. C'est-à-dire qui relève de la loi naturelle et de la conscience morale dans son exercice naturel. Dieu nous a fait don d'une conscience et d'une loi naturelle qui est inscrite dans nos cœurs. Et il y a des choses qui relèvent de la lumière naturelle de la raison et non pas de lumière surnaturelle, d'inspiration. Et Saint Jean de la Croix prend l'exemple de ce qui est arrivé à Saint Pierre. Saint Pierre a commis une grosse faute de discernement à l'occasion des questions qui se posaient autour des repas avec les païens. Avant de l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis. Et les autres juifs l'imitèrent dans sa dissimulation au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux. Vous vous souvenez du contexte par rapport à la question de est-ce qu'on doit appliquer la loi juive. Dans la loi juive, un juif n'avait pas à prendre ses repas avec des païens, pourtant Pierre l'a fait, et ensuite il a fait marche arrière par peur des circoncis convertis qui lui reprochaient de ne pas suivre la loi de Moïse. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, dit saint Paul, je dis à Képhas devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non la juive, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser? Et donc il révèle à Pierre sa faute. Un commentaire de saint Jean de la Croix. Dieu n'avertit pas lui-même Saint-Pierre de sa faute parce que cette simulation était chose qui tombait sous la raison naturelle et qui pouvait le savoir par voie rationnelle. Autrement dit, il n'y a pas eu d'ange pour avertir Pierre en disant « Écoute, là, tu commets une faute. Tu juges mal de ce qu'il faut faire. Tu es en train d'entraîner en plus des gens comme Barnabé dans ta dissimulation. » Et bien pourquoi? Parce que ça tombait sous la raison naturelle. Pierre aurait dû rester fidèle à sa conscience et ne pas céder par peur à ce péché qu'est la dissimulation. Donc c'est Paul qui le corrige. Mais cet homme, Pierre, qui était si proche de Jésus, qui était tout à l'écoute des inspirations divines, n'en a reçu aucune en ce qui concernait cette question-là, parce que Dieu aime que l'on se règle selon la raison quand les choses dépendent de la raison. Ben oui, mais si vous pensez à certaines choses qui se sont passées dans certaines communautés nouvelles où on agit beaucoup par charisme, en cherchant des inspirations de Dieu et tout ça, et qu'on n'applique pas toujours, par exemple, le droit canonique de l'Église, ou certaines lois qui tombent sous le sens, on n'y pense pas, on ne les voit pas, on passe hop, allègrement en disant « nous, on a l'Esprit Saint », et hop. Ça fait des catastrophes dans certaines communautés, tout ça au nom d'une inspiration supérieure. Et oui, faut avoir humblement, tout simplement, écouté la raison, conscience. Pas de commentaires, Florence?
Pas la peine.
Bien. Pas besoin de rentrer dans les détails non plus. Il y a inversement, il y a aussi un danger de rester simplement au niveau moral. Il y a des situations où le niveau moral suffit. Est-ce que je dois payer mes impôts ou pas ? La question, normalement, se tranche facilement. Mais il y a des situations où, bon, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des... Je prends un exemple, puisque j'ai traité le sujet dans le cadre du parcours Nazareth. L'Église laisse ouvert la porte à certaines formes d'insémination artificielle qui n'empêchent pas l'acte conjugal, qui ne se substituent pas à l'acte conjugal. Il y a certaines formes qui peuvent être moralement licites. Bon, alors on se dit, bon, si c'est moralement licite, si l'Église permet, dans certains cas, je décris pas plus, mais du moment que l'acte conjugal est posé et que ça ne se substitue pas à l'acte conjugal, il y a certaines pratiques artificielles qui sont permises, en tout cas l'Église ne les interdit pas. Alors on dit c'est pas interdit, donc je le fais. Non, il y a plein de choses qui ne sont pas interdites. C'est pas pour autant que Dieu nous demande de le faire. C'est moralement licite, oui. Est-ce que c'est, comme dit Saint Paul, tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Une fois que c'est permis, oui, mais est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu ? Vous voyez ? Et des fois, on fonce parce qu'on se dit, ah ben oui, c'est permis. Personne ne dit, ben tout ça, c'est permis. Ah bon, ben alors si c'est permis, je le fais. Non, si c'est permis, c'est pas pour autant que je le fais. Après, il y a la question du chemin de Dieu pour moi. Et moi-même, je dois dire, en tant que confesseur, des fois, je me suis fait piéger. Les personnes me disent, est-ce que c'est permis ? Et je réfléchis, je raisonne en beau casuistique, dans une bonne casuistique, je dis, oui, ben oui, ça, vous pouvez le faire. Et puis, en fait, j'oublie qu'après, il y a la question de l'écoute du bon plaisir de Dieu. Et on peut se faire piéger. En restant, vous voyez, simplement au niveau moral. Oui, c'est facile de tomber dans ce genre de piège. Par rapport à l'intention, si je, ce que je reviens sur cette question de l'intention, je voulais simplement souligner que la purification, la manière la plus simple de purifier notre intention, c'est de revenir dans une attitude d'adoration. Et ici, je redis que l'adoration, elle doit être cultivée pour elle-même. Dieu nous a fait fondamentalement pour que nous puissions l'adorer. Au commencement est l'adoration, comme avait dit un jour le cardinal Ratzinger. L'adoration, c'est pas le lieu d'un discernement. C'est le lieu pour offrir notre cœur et notre vie à Dieu. La lumière, elle vient après. Elle vient d'autant plus qu'on plonge vraiment dans l'adoration. Donc si vous prenez un temps d'adoration eucharistique, ça, vivez-le simplement pour Dieu, en déposant vos préoccupations de savoir si vous faites faire telle ou telle chose, puis la lumière viendra comme un fruit mûr d'une intention vraiment purifiée. Mais si on passe tout son temps d'adoration en se demandant est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, on rate la première marche, qui est tout simplement de se détourner de soi pour se tourner vers un autre que soi. Basique aussi, mais ça vaut peut-être la peine de le rappeler, parce que de temps perdu quelquefois à vouloir, je dirais, discerner prématurément, alors que Dieu nous demandait tout simplement d'abord de nous tourner réellement vers lui, de remettre devant Dieu. Et souvent, par rapport à des personnes qui nous demandent conseil, voyez, au lieu de vouloir tout de suite répondre, de les aider à se remettre devant Dieu, d'abord. De l'aider à se remettre devant leur vocation première, qui est de suivre Jésus. Réveiller en eux le désir, de quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive, de faire d'abord de leur vie un grand oui à Dieu et un grand acte d'abandon à Dieu. Et ensuite, seulement une fois qu'ils sont remis dans l'axe, on peut essayer de voir avec eux comment on peut essayer d'y voir plus clair quant à la décision à prendre. Alors, on pourrait, dans ce sens-là, reprendre les paroles de saint Paul. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je dis encore réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Autrement dit, mettez votre joie dans le Seigneur, ça c'est la première chose à faire, et ça correspond aussi à l'adoration. Le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est-à-dire le fruit de cette adoration, c'est, et de cette vie de prière, c'est cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ, c'est-à-dire dans la lumière du Christ. Donc ici, nous avons, et nous avions terminé par là, la dernière fois, nous avons un critère, qui est celui de la paix, c'est-à-dire les décisions, les discernements que nous devons faire, doivent toujours se faire dans la paix. Et le signe du fait que notre cœur est vraiment tourné vers la volonté de Dieu, vers Dieu lui-même, et dans cette paix, le Seigneur peut librement nous faire voir, je dirais, son appel. Donc là aussi, quand quelqu'un nous demande conseil et qu'on voit qu'il est troublé, ben, ce n'est pas la peine de chercher à lui faire voir quelque chose dans cet état de trouble. Il faut déjà l'essayer de lui redonner un peu de paix pour ensuite pouvoir parler avec lui. Mais tant qu'on ne l'a pas un peu apaisé, on fait un exercice qui n'a pas de base solide et personne, on peut lui parler pendant des heures. Si elle est troublée, de toute façon, elle verra rien. Il faut bâtir notre action sur le Christ, c'est-à-dire aussi sur sa paix. Alors, qu'est-ce que dit saint Ignace? Il importe au temps de la désolation de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où on était avant la désolation et où au temps même de la consolation. Car c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation est-ce le mauvais esprit, sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin. Alors, par désolation, je précise, saint Ignace entend les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance, la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse. Bref, les états où on va mal, quoi. Et dans ces états, on peut être tenté par l'inquiétude de prendre des décisions précipitées, alors qu'en réalité, il n'y a pas de nécessité. Et là, le conseil de saint Ignace, il n'y a pas d'exception. Si on n'est pas bien, spirituellement, eh bien, il faut reculer autant qu'on peut la décision. Moi, je dis souvent, là, on ne prend pas de décision dans le brouillard, c'est pas en état d'y voir clair, alors. C'est lié.
Hein? Ni dans la colère. Ni dans la colère ou dans la...
Oui. Ouais. Je pense que la colère, les états de colère font partie de ces états. Parce que ça va un peu avec la tristesse, il me semble. Hein? Mais c'est vrai, saint Ignace ne le cite pas, mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dit saint Jacques. Mais en réalité, elle ne le peut pas, parce que quand on est en colère, on voit pas, on peut pas bien voir les choses.
Oui, je réfléchissais que pendant qu'on est dans ces moments où on n'est pas bien, on se dit, mais si je prends une décision, alors ça ira mieux. Donc on se fait piéger, je crois, de deux choses. C'est de se dire, la solution, c'est de prendre la décision. Je ne suis pas bien parce que je n'ai pas pris la décision. Et on se dit, si je la prends, ça ira mieux. Parce que moi, je ne serai plus dans l'hésitation. Et la seconde chose que je vois très souvent, c'est le temps. On se dit, il faut la prendre tout de suite. Et je dis toujours, l'urgence, c'est le SAMU et les pompiers. C'est tout. L'urgence, c'est quand on regarde de près en disant, mais pourquoi est-ce si urgent? Et finalement, on voit que, mais Ça peut attendre, et là aussi, on se fait piéger beaucoup, je trouve, par le temps. Et de pouvoir se dire, et si ça dure une semaine de plus, qu'est-ce qui va se passer? La Terre va arrêter de tourner, quoi.
Le démon, il aime bien nous mettre sous état de stress et de tension un peu permanente, qui fait que de fait, on va être spontanément dans cet état d'esprit de liquider les affaires plus rapidement possible, de débarrasser, prendre une décision comme ça, voilà, d'être expéditif. Au lieu de laisser mûrir les choses, puis après, on se rend compte, après, je vois au niveau pastoral, prendre des décisions très rapidement, comme ça, on écoute un peu, hop, allez, ça, c'est possible, terminé, tout ça. Et puis, une semaine après, on vient reprendre le dossier en question, parce que c'était manifestement pas la bonne décision. Donc, en fait, on croit gagner du temps, et puis on en perd. Hein. Bon. Et dans l'écriture, il y a une parole du proverbe qui peut nous aider, que j'ai essayé de garder dans mon cœur, qui tresse le pas sur fourvoie. Je me souviens du petit enfant du catéchisme qui nous a dit: Dieu n'aime pas qu'on se tresse. Mais même qui presse le pas, vous voyez, pensez à la démarche lente de Jean-Paul II. Le pas lent de Jean-Paul II qui presse le pas. Il y a une sorte d'agitation physique aussi qui finalement maintient notre cœur un peu oppressé aussi. Alors qu'il n'y a pas de raison d'être toujours un peu à presser le pas comme ça. C'est comme s'il fallait à tout prix gagner du temps à tout prix. Et c'est là que, quand notre cœur est sous tension, je pense que ça peut être un bon exercice. Et là, je ne le fais pas souvent, hein, j'avoue. Mais là, je me prêche à moi-même. Hein. Ça peut être un bon exercice de faire certaines choses assez lentement. Enfin, de s'appliquer à faire des choses. Voilà. En tout cas, faire les choses les unes après les autres, en prenant le temps pour chaque chose et en essayant, en essayant de casser, ne serait-ce qu'au niveau de notre rythme, de casser cette sorte de tension et de pression et d'agitation intérieure, de manière à retrouver la patience et la, comment dire, la paix dont on a besoin pour y voir plus clair. Ici, je cite Saint François de Sales: ne vous empressez point à la besogne, toutes sortes d'empressements troublent la raison et le jugement. Recevez donc les affaires qui vous arrivent en paix, tâchez de les faire par ordre l'une après l'autre. Il faut en tout et partout vivre paisiblement. C'est Saint François de Sales qui parle. On sait que à la même époque, un Saint Vincent de Paul prenait ses décisions vraiment très lentement, en attendant tout ce qu'il a fondé à continuer. C'est des décisions qui ont mûri lentement, mais qui ont produit un fruit pour les siècles.
Je pense que pour y parvenir, il faut être surtout très présent à ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est un peu le secret. S'appliquer à être présent et à ne pas... Bien sûr, on quitte sans arrêt cette présence, mais y revenir sans arrêt. Ça me semble que c'est... Non, c'est pas... Et puis c'est un moyen de rester uni à Dieu dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais je pensais, par exemple, on est très présent à ce qu'on est en train de faire, on fait un coup de téléphone, donc c'est important de lâcher complètement ce qui était avant pour redevenir présent à cet imprévu. Enfin, je ne sais pas, je pense que ça aide quand même, non?
Oui. Je pense que les imprévus peuvent nous aider à dans un exercice de... Comment dire, de docilité, d'écoute de la volonté de Dieu, toujours prêt à lâcher ce que l'on est en train de faire pour rester disponible à ce que Dieu nous demande. Effectivement, le coup de téléphone, c'est un bon exemple. Moi, quand j'ai un coup de téléphone et que je suis très pris par quelque chose, j'ai tendance, dans les premiers instants, à continuer à penser à ce que j'étais en train de faire, parce que j'ai du mal à le lâcher. Mais précisément, il faudrait profiter du coup de téléphone pour vraiment lâcher ce qu'on est en train de faire, le remettre à Dieu, et pour ensuite pouvoir le reprendre dans plus d'abandon. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je sais, c'est que j'ai du mal à vivre. Mais aussi, ça correspond à des états un petit peu de fatigue où on a du mal aussi à rester vraiment dans ce moment présent. Je crois que c'est le problème pour beaucoup d'entre nous.
Et pourtant, c'est ce qui est le plus reposant, de rester dans le moment présent. Et puis, je crois qu'au téléphone, il y a deux choses. D'abord, quand on appelle quelqu'un, de demander « Est-ce que je te dérange ?» Et ensuite, et nous, d'avoir la liberté de dire « Écoute, ok, c'est toi, mais je ne peux pas te prendre, je ne peux pas vous prendre pour le moment, je ne suis pas disponible intérieurement. » Et on peut aussi avoir cette liberté-là. Et de nouveau, les urgences, c'est le SAMU, le 15, et les pompiers, 18.
On peut aussi avoir la tentation inverse, c'est-à-dire on commence une chose et puis tout de suite on pense à une autre chose qu'on faudrait faire aussi. Puis on reste comme partagé, puis on oscille, on dit ah bon, non, je vais le faire aussi un peu ça parce que je vais oublier sinon alors on est. Et puis finalement, en faisant la chose, on peut en oublier ce qu'on voulait faire avant. Et puis moi, des fois, ça me fatigue. Enfin, alors, l'Écriture dit, sois attaché à ta besogne. Il faut être à la fois attaché, la faire jusqu'au bout. Sois attaché à ta besogne, en même temps, s'en détacher, c'est sûr, intérieurement. Occupe-t'en bien et vieillis dans ton travail. C'est-à-dire aussi, accepte de perdre du temps. Tiens, confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. Voilà. Moi, je pense souvent qu'en fait, Dieu nous donne les choses à faire et à supporter exactement dans le bon ordre. Et si on restait dans le moment présent, on saurait capter cet ordre des choses. On verrait que les choses, en fait, s'enchaînent les unes aux autres et qu'elles se préparent les unes les autres. Dieu fait tout avec ordre. Donc le coup de téléphone, il arrive en fait pas à n'importe quel moment. Les circonstances de notre vie, rien n'échappe à la providence divine, hein, faut quand même se rappeler ça. Donc si on vivait plus dans la foi en recevant les choses de Dieu, de la main de Dieu, et si on acceptait d'être comme un petit enfant qui se laisse conduire chose après chose, si je puis dire, eh bien on éviterait bien les tensions, bien des calculs inutiles, des raisonnements inutiles sur ce qu'il faut faire, pas faire, parce qu'on se laisserait guider comme ça, et on s'aperçoit finalement, au bout du compte, en laissant les choses venir, en les faisant les unes après les autres, comme elles viennent, en restant collé à notre besogne, devoir d'état, comme on dit, ben, finalement, sur fond d'une fidélité au devoir d'état, les inspirations divines dont on a besoin, parce qu'à certains moments on a vraiment besoin d'inspirations divines pour faire des choses qui dépassent, si je puis dire, le devoir d'État. Hein. Par exemple, la parole juste à une personne qui nous appelle au téléphone et on n'aurait pas su comment lui répondre, et puis ça vient, la parole qu'elle avait besoin d'entendre, ça ne relève pas du devoir d'État, ça relève de l'Esprit Saint qui intervient, qui vient à notre secours par rapport à des choses qui dépassent la raison naturelle. Hein. Mais précisément, si on fait bien les choses ordinaire, en s'appliquant humblement à ce qu'on a à faire, quand viendra le moment d'une œuvre proprement divine, c'est-à-dire demandant une inspiration divine, on sera prêt. Tiens-toi à ta besogne, confie-toi dans le Seigneur, car ces choses faciles aux yeux du Seigneur rapidement, en un instant, d'enrichir un pauvre, d'enrichir aussi de lumière. y a des il y a des relations qui sont pour nous plus difficiles à, comment dire, à vivre dans la lumière de Dieu, parce que nous sommes plus touchés effectivement par certaines personnes, certaines situations, parce qu'on les a vécues soi-même et que ça réveille en nous soit de la colère, soit une compassion humaine quelquefois un peu mêlée de, je dirais, de notre problématique à nous. Et il faut être conscient que dans certaines situations on n'est pas bon juge. Précisément, on n'arrive pas à rester dans cette paix et cette tranquillité de l'esprit et du cœur pour laisser l'Esprit Saint nous mouvoir librement. C'est aussi donc pour cette raison que quand on revient à la prière pour se disposer à discerner, c'est important de ne pas refouler ce qui s'agite dans notre cœur par rapport à telle ou telle situation, arriver à déposer. Je donne un exemple. Juste avant, je faisais une célébration pour Noël et j'étais un peu énervé. J'avais parlé avant avec quelqu'un par rapport à l'organisation de cette célébration. Il y avait eu beaucoup de mails envoyés. Je me disais, c'est à chaque fois, chaque année, il y a beaucoup de mails. On reçoit plein de mails sur l'organisation, tout ça. Ils ne se rendent pas compte que nous, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Et puis ça repartait, le raisonnement. Non, ça, mais franchement, ces célébrations qui nous bouffent du temps, de l'organisation et tout ça. Et puis ça repartait, la rumination. Et puis l'heure arrivée où je devrais prêcher aux enfants, je me dis, je ne vais pas prêcher dans cet état-là. C'est pas possible. Il faut absolument que je remette ça et que je dise, bon, bah, on accepte qu'on soit dans un organisationnel peut-être un peu excessif. Mais il faut arriver à déposer ça. Je suis sûr que si je n'avais pas réussi à le déposer, la célébration, elle était minée par ça au fond de mon cœur. Un bête énervement qui trouble. Et résultat, quand on doit prêcher, hein, on dit, tiens, l'Esprit Saint, il n'est pas là. Ben non. Non, l'Esprit Saint, il n'est pas là. Effectivement. Parce que le cœur est troublé, et ça suffit pour que le courant ne passe pas. Vous voyez ? Et si j'avais prié avant en disant, bon, allez, bon, je laisse. En refoulant tout ça, en faisant ma prière bien comme il faut à genoux, les mains jointes, mais en refoulant tout ça, eh bien, ça n'aurait pas réglé le problème. J'aurais pu avoir l'impression d'être de fait bien à Dieu, mais c'est là où il faut, vous voyez, au niveau du cœur, il faut être dans la vérité, aller jusqu'au bout de désencombrer, de faire qu'on aboutisse à une vraie paix, pas une paix superficielle. Je ne sais pas si je me fais bien.
Et alors, tu as fait comment?
J'ai fait comment? J'ai pris un quart d'heure pour me dire, c'est finalement tous ces gens-là qui font la catéchèse, c'est quand même des gens de bonne volonté. Heureusement qu'on les a. Ils font de leur mieux, ils sont de bonnes mères de famille, qui font ça très bien finalement, même s'il y a des trucs qui m'énervent, mais ça me donne l'occasion d'exercer la patience. Enfin, je me suis raisonné un peu. Il faut bien. Bon, à partir d'une certaine heure, j'ai plus de difficultés à me raisonner, mais là, je suis à peu près arrivé. Il y a un quart d'heure quand même.
C'est bien d'avoir un quart d'heure
devant soi. Oui, il faut l'avoir le quart d'heure, c'est sûr. Oui.
C'est pas trop mal.
Oui.
Oui, c'est important. C'est-à-dire que tu as fait de ta difficulté une prière.
Oui, on peut dire ça.
Tu n'as pas refoulé en disant « je ne m'en occupe pas », mais tu as présenté ça au Seigneur en disant « ben voilà, ça m'énerve, mais il y a aussi ça, mais il y a aussi du bon, et puis comment de tout ça va sortir de la vie, en fait. Plutôt que de refouler en disant non. Oui. T'as mis le Seigneur au cœur de ta difficulté.
Oui, et puis j'ai surtout fait un exercice d'humilité qui consistait quand même à accepter de voir l'état finalement assez bête dans lequel je me retrouvais.
Mais oui.
M'énerver pour des trucs.
Lui aussi, lui aussi.
Tout ça avant un enseignement sur le discernement spirituel, c'était pas terrible.
Ah ben t'as un exemple tout chaud, oui, c'est formidable.
Bon. Alors, d'une manière plus large, ce qui gêne le discernement dans notre relation et qui fait qu'on n'est pas vraiment non plus dans la paix, c'est le besoin de plaire, quoi. C'est la peur de perdre la relation. Saint Paul dit à un moment, je serais plus le serviteur du Christ si je cherchais encore à plaire aux hommes. Mais on ne peut pas être le serviteur du Christ, parce qu'on ne peut pas se laisser guider par sa lumière à partir du moment où on est... où on vit sous le regard des autres plus que sous le regard de Dieu. C'est là aussi la crainte de Dieu est libératrice. Dans le psaume d'hier, la messe d'hier, le Seigneur donne sa lumière à ceux qui le craignent. C'est-à-dire qu'ils vivent sous son regard. Et ici, on pourrait mettre dans le même sens, c'est-à-dire d'un manque de discernement, parce qu'on reste au niveau affectif, au niveau des passions, donc notre cœur est forcément troublé, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est forme de pitié humaine. Alors là, si je devais confesser le nombre de fois dont je me suis fait rouler dans la farine par des gens qui demandaient de l'argent.
Bon, vous pouvez donner un exemple. Vous soufflez des exemples. Hein. Ah non,
mais ce n'est pas une confession générale hyper lui ce soir quand même.
Non, mais il peut donner un exemple.
Des fois, je me suis pris dans des vrais réseaux. C'est-à-dire, notamment, il y a des réseaux yougoslaves. C'est sûr que les familles yougoslaves, quand elles ont repéré
un pigeon
c'est eux qui deviennent voyageurs. Ils viennent de très loin pour voir le pigeon, c'est ce que je veux dire. Alors, je me suis fait, oui, gentiment avoir il y a un mois, mais mon curé a eu la même personne, et puis on a confronté les informations, c'était décalé. Il y avait un discours au curé, un discours au vicaire, et tout ça. Et alors là, la personne est revenue, j'ai dit, mais moi, mon curé, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je donne. Alors, allez voir mon curé. Oui, mais ça, c'est l'obéissance. Vraiment, l'intérêt du vicaire, c'est de rester dans l'obéissance. On peut se protéger par l'obéissance, c'est toujours bon. Toujours bon. Revenir à l'obéissance.
Hein?
Ça, je ne sais pas s'il verra demain, mais en tout cas, là, je suis assez content de ma réponse. Oui, tant qu'on peut vivre les choses dans l'obéissance, profitons-en. Beaucoup de problèmes de discernement que j'ai pas parce que j'ai un curé j'en profite bien.
C'est déjà ça. De demander conseil, c'est déjà l'esprit de conseil.
Oui. Oui, mais moi ça me gêne pas parce que je crois en la grâce d'État. Donc le curé, normalement, il a la grâce d'État. Et puis, même s'il discerne mal, moi, comme on dit, hein, même si la personne discerne mal, nous, on ne se trompe pas en obéissant. Voilà.
Non, je pense à une amie que j'aime beaucoup et qui est très malade et qui a très grave, et alors quand elle m'explique, je me suis rendu compte que ça n'est pas arrivé, mais j'aurais pu tomber dans une certaine compassion qui fait que on parle de sa maladie, enfin on l'aide dans ce domaine-là, et en fait j'aurais fait une grave erreur. Ce que j'ai fait, moi je l'ai écouté longuement, je pense que ça c'est important dans le discernement, c'est déjà écouter pour essayer de connaître la réalité de l'autre, la vérité de l'autre. Et en fait, elle m'a dit, voilà, moi je sais que c'est grave, mais j'accepte la volonté de Dieu. Je ne demande pas la guérison, je dis au Seigneur, tu fais comme tu veux, ce que tu trouves qui est le mieux. Et je me rends compte que si j'étais rentrée dans une attitude trop proche, ça n'aurait pas été bon parce qu'elle était vraiment dans l'abandon, et qu'au contraire, il fallait l'encourager à rester dans cet abandon, dans cette acceptation et dans cette paix intérieure qu'elle a, qui est totale.
Oui. Je pense que par rapport à cette manière de vivre en se laissant pas prendre trop par les choses à un niveau humain, mais en les vivant avec Dieu, dans l'ordre de Dieu, et en restant à notre place aussi, bien dans notre en correspondant bien à notre devoir d'État, sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas non plus, enfin, toute cette attitude d'obéissance, marcher humblement avec Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Que tu marches humblement avec lui, voilà. Que tu accomplisses la justice. Voilà. Puis les lumières, elles viendront à leur temps. Ça va bien aussi avec le fait de parler, de confier à Dieu dans la prière les situations. Ça, je sens que c'est un peu un réflexe à avoir, pas du tout naturel chez moi, qui est de confier les choses les unes après les autres à Dieu. Kuehler disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Bien de confier telle rencontre. Jean-Paul II, par exemple, il avait témoigné que quand il devait rencontrer quelqu'un, il priait toujours pour la personne avant. Des petits exercices comme ça, il y a plein de choses qu'on vivrait plus dans la paix si on prenait le temps simplement de les confier ou de dire à Jésus, bien voilà, sois avec moi, je veux, accompagne-moi, je sais que tu es présent, de poser un petit acte de confiance.
C'est difficile de parler de ça parce que pour moi ça fait partie de ma vie, alors je trouve que c'est difficile d'en parler. D'être toujours avec Jésus, quoi. C'est un ami, c'est l'ami le plus proche, le plus. Voilà, donc je sais pas, enfin, c'est difficile d'en dire. Ça me paraît tout simple, tout naturel, alors.
Représentez-vous le Seigneur lui-même à côté de vous, dit Sainte Thérèse d'Avila, et considérez avec quel amour, avec quelle humilité il daigne vous instruire. Il nous donnera toujours sa lumière. Si quelqu'un me suit, on ne sera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Croyez-moi, autant que vous le pourrez, demeurez dans la compagnie d'un si excellent ami. Si vous prenez l'habitude, voyez, il y a une question d'habitude, de vous tenir en sa présence. Et s'il voit que vous le faites pour lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Vous en abandonnera jamais, il aura supporté toutes vos peines. Vous l'aurez enfin partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de choses d'avoir à ses côtés un tel ami?
Oui, quelquefois on peut avoir des petits signes, comme ça, une icône à côté de son téléphone ou dans son bureau ou quelque chose qui nous rappelle. Et j'ai une amie qui laisse toujours une chaise vide quand elle reçoit quelqu'un en disant bon, « j'ai installé le Christ ressuscité là ». Et elle fait exprès de vraiment mettre une chaise vide ou des choses comme ça de... Quelqu'un, je ne sais plus qui visitait les hôpitaux, il disait « quand j'ouvre la porte, je laisse Marie entrer ». J'ai un geste, je ne viens pas tout de suite, j'ouvre et je laisse entrer.
C'est ce que j'ai dit au GTC l'autre jour.
Oui, je ne sais plus qui disait ça, mais vous voyez aussi d'avoir des petits gestes. Moi, quand j'entre, je ne fais plus de voiture, mais j'entrais avant dans ma voiture. Pour moi, c'était ma chapelle, la voiture. Quand j'entrais dans ma voiture, j'entrais dans une chapelle. Et je priais tout le temps, choses comme ça. Le métro, pour moi, c'est ma cathédrale. Quand j'entre dans le métro, je me dis, j'entre dans une cathédrale. Et je vois tous ces enfants de Dieu qui sont là. Des petites choses comme ça, de rien, ça prend pas une seconde de plus. Et puis, ça rend le transport un peu plus agréable.
Oui, puis je pense moi aussi dans les difficultés, parce que moi ça, je dirais aussi bien, je sais pas, tout d'un coup mon aspirateur est en panne, je panique un petit peu, enfin des petites paniques pour les choses matérielles, ben, je dirais quand même, c'est pas marrant, moi, c'est pas marrant, Jésus, tu viens, tu fais quelque chose, lui parler comme un ami, lui dire des fois que c'est pas marrant, qu'il est pas marrant non plus avec moi, et puis voilà, lui parler comme un ami, c'est vraiment une relation toute simple.
Considérer qu'il n'attend comme il le dit à l'épouse de Kanté, qu'un regard de nous. Il y tient si fort qu'il ne mettra rien pour que vos yeux et les siens se rencontrent. Benoît XVI revient souvent sur cette image de croiser les regards avec Jésus, de le regarder dans les yeux. On n'attend qu'un regard, même pas nécessairement une parole, mais un simple regard. Et elle dit bien, la Sainte Thérèse d'Avila, vous arrêtez bien vos yeux sur des objets de toute laideur, et vous ne pourriez le faire sur la beauté la plus accomplie qui se puisse concevoir. Cécile n'a pas parlé, mais elle m'avait cité une fois l'exemple d'un prêtre qui faisait toujours son ménage avec la Sainte Vierge. Ça m'est resté.
Oui, c'est un curé de province qui était très seul, parce que les gens ne pratiquent plus beaucoup dans cette région, c'était en Isère, et il faisait tout avec Marie. Et il me disait, moi j'aime pas faire le ménage, mais j'ai une grande maison, un presbytère, je dois faire ma cuisine, mon ménage, et je fais tout avec Marie. Et ça se fait, du fait que j'ai Marie avec moi, on fait les choses ensemble.
Donc, vous voyez, il y a une manière ordinaire de rester en présence de Dieu, de penser à Jésus, tout simplement, de le garder présent à notre esprit, à notre cœur, ou de nous blottir dans le cœur de Marie. Il y a une manière ordinaire de vivre notre vie qui fait qu'on reste dans la lumière. Et que de fait, on a le geste juste au moment juste, que les choses s'ajustent bien et qu'on discerne, 24 heures sur 24, au sens où on reste bien dans l'ordre, à la place, et on suit bien le chemin de Dieu, naturellement. Maintenant, il y a des circonstances dans notre vie où on a des choix à faire et on n'y voit pas clair, et c'est des choix importants, et de fait, on se retrouve devant cette question du discernement spirituel, au sens un peu plus strict, au sens d'un exercice pour essayer d'y voir clair. Alors, ce soir, on a insisté sur le fait que ce discernement devait se faire dans la paix. Je rajoute maintenant le fait que il faut non seulement se remettre d'abord dans la paix, mais être attentif à ce que produisent les pensées. Les bonnes pensées doivent naître de la paix, et si elles sont bonnes, elles nous enfoncent dans la paix. Elles naissent de la paix et elles conduisent à la paix. En partant du principe que si une pensée vient vraiment de Dieu, si elle correspond à sa volonté, dans la mesure où nous adhérons à cette pensée, eh bien, nous adhérons à la volonté de Dieu, et si nous adhérons à la volonté de Dieu, l'Esprit Saint est là, c'est un esprit de paix, et nous sommes dans la paix de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'exception à cette règle-là. Hein, paix aux hommes de bonne volonté, paix à ceux qui demeurent, qui sont dans le chemin de Dieu. Alors écoutez Saint Ignace. Nous devons examiner avec grand soin la suite et la marche de nos pensées. Si dans la suite des pensées qui nous sont suggérées, ces pensées affaiblissent notre âme, l'inquiètent, la troublent, lui ôtant la paix, la tranquillité, le repos dont elle jouissait d'abord, c'est une marque évidente qu'elle procède du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et de notre salut éternel. Donc ici, on est dans un critère de discernement au niveau de ce que produisent les pensées. On pourrait dire aussi de ce que produit la démarche, une démarche que l'on peut éventuellement commencer à faire. J'ai devant les yeux le témoignage d'un couple que les médecins vais condamner à la stérilité, mais non sans qu'ils aient d'abord eu une petite fille. Seule solution envisageable pour le médecin, la fécondation in vitro. Alors voilà ce dont il témoigne. Voilà, rapidement embarqué dans un processus de procréation médicale lourd, stressant, difficile à supporter physiquement, mais surtout psychologiquement, tant au niveau individuel qu'au niveau du couple. Nous nous sentions en effet l'un et l'autre vraiment dépossédés de notre amour et transformés en chance de réussite ou risque d'échec. Mais surtout, nous nous sentions mal, tristes, oppressés par ces nombreux rendez-vous médicaux impersonnels, loin de toute la magie de l'amour conjugal. Aussi, sans s'être lancés dans une fivette qui devait être l'étape suivante, nous décidons alors, ensemble, d'arrêter les traitements. Voilà un bel exemple d'un couple simple, chrétien normal, qui commence une démarche et il se rend compte que quelque chose ne va pas bien, parce qu'il y a une sorte de tristesse qui les envahit. Ces pensées affaiblissent notre âme, l'inquiètent, la troublent, dit saint Ignace. C'est des fois en amorçant quelque chose, même si on est parti dans la mauvaise direction, le Seigneur continue à nous avertir, parce que précisément, dans la mesure où on reste, je dirais, profondément de bonne volonté, sur fond de cette bonne volonté, on va ressentir que quelque chose ne va pas, n'est pas en accord avec notre vie de foi et d'amour. Les gens qui sont loin de Dieu, comprenons bien, les gens qui sont vraiment loin de Dieu, qui vivent habituellement selon l'esprit du monde et, j'allais dire, selon la tristesse du monde, avec des joies superficielles, simplement se nourrissant de plaisirs du monde. Ces gens-là, quand ils partent dans une direction qui n'est pas la bonne, ils ne ressentent pas cette tristesse-là, simplement parce que c'est leur état habituel. Les personnes qui les ressentent, c'est des personnes qui sont amies de Dieu, mais qui ont commencé à avancer sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu, et qui se... hop, parce qu'ils écoutent leur cœur, parce qu'ils sont sensibles à ce titillement, à cette... Elles peuvent se dire à un moment, mais attention, attention, c'est pas ça, quelque chose qui ne va pas. Là, il y a une question, voyez, d'écouter son cœur et en même temps d'avoir l'humilité, évidemment, de se dire, je suis peut-être parti dans la mauvaise direction. Écoutez la suite, la décision n'a pas été facile à prendre, l'incompréhension du corps médical, voire de certains de nos proches, ne rendant pas le choix facile. Mais cette décision est rapidement apparue comme une évidence. Cette aide médicale poussée et intrusive au cœur même de notre intimité de couple ne nous convenait pas et nous rendait malheureux. L'impression de libération, de soulagement, de vraie paix intérieure et l'aide de la position de l'Église que nous comprenions mieux désormais nous a confortés dans cette voie, nous avions pris la bonne décision, nous nous retrouvions enfin l'un et l'autre. Voilà, nous avons une application stricte. Les critères de discernement de saint Ignace, vous voyez, par des gens qui n'ont pas sûrement suivi de cours sur le discernement spirituel, mais c'est comme d'instinct, vous voyez, que le bon peuple de Dieu reconnaît les choses et sent les choses. Mais évidemment, l'enseignement d'Église est là aussi pour nous mettre des balises et nous aider dans ce discernement. Cette paix intérieure retrouvée, nos prières et celles de nos proches, la volonté de faire confiance que nous avons donnée, nous a aidés à avancer sereinement année après année. Il développe en disant qu'en fait, ça leur a ouvert leur cœur par rapport à la souffrance des célibataires, qu'ils ont commencé à accueillir plus de personnes souffrantes, notamment du fait qu'elles n'avaient pas d'enfants, et que ça a été tout un chemin de charité. Et la dernière nouvelle, c'est qu'ils attendent un deuxième enfant. Et oui, voyez, et là on voit que chercher d'abord le royaume de Dieu, hein, et restera donné par surcroît, Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il ne faut pas, je dirais, se laisser enfermer dans des sortes de malédictions. Vous n'aurez plus jamais d'enfants, vous êtes stériles. Se laisser enfermer dans des paroles comme ça. Il faut garder confiance et se laisser guider par notre cœur, pas laisser d'autres nous guider. Rester libre.
Quelle joie, cette naissance.
Jésus dit aux pharisiens, qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Il dit encore d'une manière semblable, mes brebis écoutent ma voix. C'est-à-dire, dans la mesure où notre cœur appartient à Dieu, ce qui est le cas apparemment de ce couple, hein, ils sont des gens très, très croyants, très, très priants, notre cœur appartient à Dieu, on ressent ce qui est de Dieu. Précisément, comment on le ressent ? On discerne, on reconnaît la voix de Dieu parce qu'elle nous maintient et elle nous confirme dans la paix. Par contre, la voix des étrangers, mes brebis ne l'écoutent pas parce que la voix des étrangers, elle trouble notre cœur. Une voix étrangère à la voix de Dieu qui n'est pas la voix de notre Seigneur. Et donc, plutôt que de se laisser séduire par les apparences des faux prophètes qui, déguisés en brebis, sont des loups voraces, eh bien, nous écoutons notre cœur et nous goûtons le fruit que produisent les paroles, parce qu'on reconnaît l'arbre fruit. Le palais reconnaît à son goût le gibier, de même le cœur avisé discerne les paroles mensongères. Et Saint Jean de la Croix, dans cette perspective, dit qu'en vérité, on peut toujours reconnaître si quelqu'un est hypocrite ou pas dans ses paroles. On sent que ça sonne faux, comme on dit, que ça sonne faux dans notre cœur. Quelque chose qui est une petite signal, une petite alerte. Alors, souvent, on ne l'écoute pas parce qu'on se dit, oui, mais attends, cet homme, il est en difficulté, il faut que je l'aide. Ah, mais on se met alors à se laisser prendre par l'affectif, par une sorte de compassion comme ça humaine. Et puis, en fait, il y a eu un signal. Le signal, je crois, qui vient dans le premier moment, dans la réaction première du cœur, me semble être la bonne. Si on est dans la prière et dans la paix, il me semble que c'est au niveau de l'impression première que nous fait la rencontre avec l'autre et puis les paroles qu'il prononce, d'écouter notre cœur avant de nous perdre dans nos raisonnements.
Pas un proverbe, mais qui dit c'est la première impression qui est bonne, surtout si elle est mauvaise.
Ah oui, écoutez Saint Ignace. Chez ceux qui vont de bien en mieux, le bon ange touche l'âme doucement, légèrement et suavement, comme une goutte d'eau qui entre dans une éponge. C'est-à-dire, les bonnes aspirations nous enfoncent dans cette paix dans laquelle on est déjà. Donc ça s'enfonce dans une éponge, doucement, on se laisse conduire comme ça, par la lumière divine. Et le mauvais, lui, la touche de façon aiguë, avec bruit et agitation, comme lorsque la goutte d'eau tombe sur la pierre. C'est-à-dire, le mauvais, il est en contradiction avec ce qu'il habite intérieurement, et donc c'est aigu, ça fait du bruit, de l'agitation, parce que c'est pas conforme à notre état. Ceux qui vont de mal en pis, ces mêmes esprits les touchent de manière opposée. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Ceux qui sont de manière habituelle plus tournés vers le mal que le bien, eh bien, le démon les inspire doucement. Ils sont menés tranquillement sur un chemin de perdition, la voie large et spacieuse dans laquelle ils se laissent conduire, dans un état, comme dirait Benoît XVI, de somnolence spirituelle. Pour parler comme Benoît XVI, d'anesthésie des consciences. Comme pour Jean-Paul II, il utilisait cette expression, anesthésie des consciences. Et à ce moment-là, l'ange, quand, le bon ange, lui, quand il intervient, ça les titille. Ils ont des tiraillements intérieurs, des trucs, c'est un réveil de la conscience qui les fait, qui sont pas à l'aise et qu'ils entendent une parole de quelqu'un qui leur rappelle la voix de Dieu et ça les énerve profondément. Ils réagissent très, hein, ça, puis ils se broquent, ça tombe. Parce que c'est en contradiction avec leur état. La cause en est que la disposition de l'âme est opposée ou semblable à ses anges. C'est pour ça que quand Jésus dit « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, il est en harmonie, et il les reconnaît et voilà ». On suit naturellement Dieu quand on aime Dieu. On l'écoute naturellement, les choses se font paisiblement et naturellement. Il me semble aussi que c'est important de rester. Il y a les réactions du cœur. Il y a les réactions du corps. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit. La traduction liturgique traduit « mon cœur m'avertit », mais littéralement c'est « mes reins m'avertissent ». Les réactions intimes du cœur vont de pair avec des réactions du corps. Fait qu'on a de frissons ou de mal-être, ou de signal d'une. Oui, surtout quand c'est une réaction. C'est la première impression qui est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Mais cette première impression mauvaise, elle est aussi une réaction du corps. Quelque chose qui nous fait ressentir un état de mal-être aussi physique. Il faut faire attention que le démon cherche toujours à singer Dieu. Et qu'il peut, quand il voit qu'on est rentré dans ses. Qu'on s'est laissé berner par lui, et qu'on est rentré dans ses voies, il peut chercher à nous maintenir dans une fausse paix. Qu'en sera-t-il donc de ceux qui vivent en paix malgré un grand relâchement dans la règle, demande sainte Thérèse d'Avila. Plaise à Dieu qu'il n'en ait point. Le démon doit avoir bien des manières de procurer cette paix. Là, elle parle pour les religieux. Ils n'appliquent pas la règle, ils n'observent pas la règle, ils n'écoutent pas leur conscience morale, ils se trouvent un prétexte pour dire que ce n'est pas important de respecter tel aspect, et le démon en est très content. Et il les maintient le plus possible dans la tranquillité. Tout va bien pour toi. Oui, c'est sûr. On voit ça aussi, que des personnes qui ont été longtemps dans des mauvaises directions, le démon les laisse tranquilles quand elles continuent à avancer dans la mauvaise direction. C'est quand elles se convertissent que les démons sortent ses griffes. Alors, évidemment, à ce moment-là, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Depuis que je prie, depuis que je me tourne vers Dieu, ça va de mal en pis. Ben oui, mais avant, c'était encore pire, quand ça allait bien.
Elle ne le savait pas.
Elle ne le savait pas. C'était vraiment à la pente glissante, douce, douce, avec une fausse paix. Et sainte Thérèse d'Avila, on parle à propos de ceux qui sont riches. Ceux qui ont ce qu'il leur faut et beaucoup d'argent dans leur coffre croient que tout est fait s'ils se gardent de commettre des péchés graves. Jouissent de ce qu'ils possèdent, font une aumône de temps en temps, sans considérer que ces biens ne sont pas à eux. Doctrine sociale de l'Église. Ce qui est superflu ne s'appartient pas. Mais que le Seigneur leur a donné comme à ses intendants pour qu'ils partagent avec les pauvres. Cela ne nous concerne que pour que cela ne nous concerne pas assez religieuse, hein, que pour que vous suppliez le Seigneur de les éclairer, de les sortir de leur torpeur et qu'il n'en soit pas deux comme du riche avare, comme du mauvais riche de la parabole, qui n'a rien vu venir. Donc, il faut que la... Faisons attention, le démon singe la paix divine et peut nous maintenir dans un état d'illusion. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une situation de progressif éloignement de Dieu, mais il y a l'habitude du péché aussi qui fait qu'on dévoile de moins en moins qu'une situation n'est pas juste et qu'on risque de s'enfoncer sans faire attention dans cette injustice. Oui. Oui.
Et lorsque vous êtes spectateur de cette situation, comment pouvoir l'expliquer ça, pouvoir dire ça à quelqu'un qui cherche ou qui mène un combat?
Comment accompagner des gens qui, après une conversion, se heurtent de fait à des attaques en règle de la part du malin et risquent de se décourager, c'est exactement ça que le démon cherche, hein? Et comment on peut les aider à pas, je dirais, se laisser précisément troubler en pensant que finalement ils n'auraient jamais dû faire ce changement de vie.
La prochaine fois, nous parlerons du combat spirituel. Hein?
Oui.
Donc je pense que ça sera à ce moment-là, parce que je vois aussi leur tourner les moins écarts.
Oui, c'est pour ça, vous avez...
On y répondra beaucoup plus longuement et précisément quand nous parlerons du combat spirituel. C'est bientôt, en tout cas, je ne sais pas.
C'est peut-être le problème aussi de tout sevrage, de toute addiction.
Il y a tout un...
C'est un phénomène...
Voilà, c'est un grand chapitre, un grand chapitre qu'on ne peut pas traiter en deux minutes.
Nous restons au niveau des critères, pour rester au niveau des critères de discernement par rapport à une décision où la question du discernement se pose, parce que c'est une décision importante qu'on a à prendre. Il faut penser que Dieu parle au cœur, se rappeler que Dieu parle au cœur. Et donc, en même temps qu'il nous parle, il nous ramène à notre cœur. Et que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, est un esprit d'amour, qui éclaire notre cœur, est en même temps un esprit qui le réchauffe et le dilate. Autrement dit, les inspirations divines nous intériorisent, elles nous gardent dans l'intériorité. Fait que notre cœur en même temps est ouvert et il y a une vraie, je dirais, possession de nous-mêmes dans cette intériorité. On sent en même temps, ça va de pair avec un état de liberté. Le Seigneur, quand il nous guide et qu'il nous parle à notre cœur en même temps, il nous ramène à ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes, il nous restitue à nous-mêmes le... C'est ce qui nous aliène, c'est le péché. La volonté de Dieu ne peut que nous rendre à nous-mêmes. On devient soi au fur et à mesure qu'on colle à Dieu, aux exigences de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, dit Saint Paul. J'ai envie de rajouter aussi, là je m'inspire du Père Thomas qui insistait sur ce critère de l'intériorité de la liberté. J'ai envie aussi de dire qu'il y a une simplicité parce que Dieu est simple et que quand c'est lui qui nous inspire et qui nous conduit en nous parlant au cœur, eh bien précisément on est nous-mêmes, il nous rend à nous-mêmes. Et bien dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos décisions, il y a une droiture, une vérité et une simplicité auxquelles on reconnaît les chemins de Dieu. À l'inverse, quand on sent qu'on est dans des raisonnements et des calculs comme ça, dans lesquels on est beaucoup dans le mental et qui nous sortent du cœur, bien, ça peut être un signe qu'en réalité, on n'est pas du tout dans la. On n'est pas au niveau de la lumière divine, on est au niveau d'un jugement humain. Qui se situe au niveau des facultés inférieures, comme on dit, et non pas au niveau du cœur et de l'intelligence du cœur. Oui, alors on va passer. Oui.
Tu as dit tout ça au début, en fait.
Oui. Oui. Alors, vous voyez, je cite simplement au niveau de Benoît XVI par rapport à... Oui. Non, c'est-à-dire c'est toujours la même idée, mais je reviens là-dessus sur quelque chose, c'est le fait que de faire le bien, de nous appliquer à, encore une fois, Benoît XVI est dans son encyclique, il dit, hein, nous ne contribuons à un monde meilleur qu'en faisant le bien, maintenant et personnellement, passionnément, partout où cela est possible. On est quelquefois dans la projection d'une action pour les autres, d'une action pour Dieu. Et parce qu'on est tout tendu aussi à discerner si on doit faire par exemple telle activité apostolique, si on doit se lancer dans tel projet, tout ça, on néglige de faire le bien maintenant de tout notre cœur, là où on est. Tiens-toi à ta besogne. En fait, c'est toujours la même idée. Fais le bien, marche humblement avec ton Dieu, applique-toi à faire le bien simplement là où tu es. Puis les projets, les initiatives apostoliques, les choses pour les grandes choses, les œuvres, bien, ça viendra en son temps, comme un surcroît. Il faut penser aussi que les situations elles-mêmes, elles ont besoin de mûrir. Le Seigneur peut nous demander de porter dans la prière, dans l'abandon, dans la patience, des situations, jusqu'à ce que la lumière se fasse, mais la lumière se fait aussi parce que les situations elles-mêmes, elles changent. Elles changent parce qu'on les porte, parce qu'on accepte de les porter. Par exemple, vis-à-vis d'une personne avec laquelle on a des difficultés, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec elle. Moi, je pense à une difficulté que j'ai eue à un confrère prêtre, et je sens que je n'ai pas encore assez de patience. Il y a quelque chose, j'ai encore un chemin à faire pour le porter davantage, de telle manière qu'un jour je puisse retrouver un dialogue avec lui, un dialogue plus lumineux, plus vrai. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore porté jusqu'au bout. Écoutez Benoît XVI. Il parle à des prêtres du diocèse d'Ao, c'était un de ses premiers discours improvisés, même le premier avec les prêtres. Et on lui pose une question par rapport à une situation pastorale très difficile. Il dit, je partage donc avec vous ces questions, je souffre moi aussi. Mais tous ensemble, nous voulons d'une part souffrir sur ces problèmes, également, tout en souffrant, transformer les problèmes. Car la souffrance est précisément la voie de la transformation, et sans souffrance, on ne transforme rien. La patience obtient tout, disait Sainte Thérèse de Lisieux. Je pense qu'il y a beaucoup de situations où le Seigneur ne donne pas la lumière, tout simplement, ce n'est pas une question d'avoir de lumière, c'est une question de porter les situations. Les situations ne se résolvent pas à coup de lumière, elles se résolvent d'abord à coup de croix, si je puis dire, c'est-à-dire en suivant le Christ, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ad lucem per crucem, la lumière se fait aussi au fur et à mesure qu'on accepte de porter la croix. La lumière se fait aussi parce que les situations se purifient. Nous-mêmes, on se purifie en acceptant de porter une situation, une injustice, par exemple, qu'on a subie, on l'accepte, on avance sur ce chemin d'acceptation, on se purifie de la colère, on se purifie du ressentiment, tout ça, et puis la personne que l'on porte elle-même est purifiée par notre patience, et progressivement, la lumière peut venir. La lumière pour nous, pour lui, La lumière se ferait un chemin ad lucem per crucem, à la lumière par la croix. Et par rapport à ça, vous voyez, il faut penser que des fois, dans notre désir de discerner, de trouver la solution, on est trop rapide, on n'est pas patient. On voulait tout de suite trouver une solution comme si c'était encore une fois qu'une question de savoir ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas qu'une question de savoir ce qu'il faut faire, c'est une question de porter les choses d'abord. Parce que c'est la charité qui transforme l'amour lui-même. L'amour, ce n'est pas une question de lumière ni de faire, c'est une question de porter dans son cœur les personnes, les situations. Si j'avais compris ça plus tôt dans ma vie de prêtre, j'aurais évité bien des démarches auprès de personnes prématurées où j'étais pas prêt moi-même, j'avais pas assez porté les choses, pas assez souffert, accepté de souffrir plutôt. Et voilà, on voudrait qu'encore une fois, même quelquefois, par exemple, on va voir la personne, on lui demande pardon. En fait, on n'a pas vraiment fait le travail qui correspondait à ça. On lui demande pardon, mais en fait, c'est nous qui avons de la colère contre lui. On n'est pas dans un vrai repentir non plus, on est plutôt dans un calcul de diplomatie, il faut se réconcilier. Oui, mais c'est pas mieux, on n'a pas fait le chemin, donc ça ne va pas pouvoir bien se passer parce qu'on n'a pas encore porté suffisamment les situations.
Florence, tu veux...
Je terminerai en m'inspirant c'est un discours improvisé de Benoît XVI, mais je n'ai pas retrouvé où il était, mais en tout cas, je m'en inspire. Et il parle du fait que le fait d'être attentif à l'aspect humain des choses, je vais peut-être retrouver le fait d'être attentif à l'aspect humain des choses. Alors, je prends un exemple tout de suite pour que, ne pas parler dans le vide. Je visite une personne malade et elle me dit qu'elle a reçu des fleurs et qu'elle a pas de vase où les mettre. Moi, première réaction, c'est les fleurs, j'en ai pas grand chose à faire. Elle est bientôt mourante, le vase.
C'est lamentable.
Le vase, bon, d'accord, mais de toute façon, les fleurs, elles sont mortes demain. Bon. Et puis le vase, bon, vous voyez la réaction du prêtre
qui. Les hommes.
Qui a pas
c'est presque de l'homme, oui.
Oui, de l'homme, en plus, de l'homme, oui.
De l'homme et en plus prêtre.
Moi, les fleurs, j'en mets jamais chez moi et je trouve que, bon, ça, déjà, le fait d'avoir changé l'eau, ça a du temps perdu. En plus, il faut couper les trucs, les tiges, enfin. Donc, première réaction, cet aspect humain, bon, je zappe. Bon. Deuxième réaction, c'est pas ça la charité. La vraie charité, de cette attention à l'humain, aux besoins humains, en fait, peut-être le chemin par lequel on va pouvoir s'ouvrir aux véritables inspirations divines. Écoutez, Benoît XVI, c'est pas le même discours, mais j'ai retrouvé ça, la même pensée au Bénin, dans son voyage. Ça, c'est le discours au gouvernement, aux hommes du gouvernement et puis aux hommes de différentes religions. La dilatation du cœur est non seulement l'espérance en Dieu, ça c'est le travail de la prière, hein, la prière comme exercice du désir qui dilate le cœur, qui l'élargit. C'est ce qu'il a développé dans son encyclique sur l'espérance. Mais ici il dit autre chose, la dilatation du cœur est non seulement l'espérance en Dieu, mais aussi l'ouverture aux soucis des réalités corporelles et temporelles. Glorifier Dieu. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai eu un petit choc. L'ouverture aux soucis des réalités corporelles et temporelles. Exactement ce que, spontanément, comme prêtre, je me dis, bon, ça, c'est pas mon affaire. C'est possible que ce ne soit pas à moi de résoudre le problème du pot de fleurs, mais que je dise, bah, écoutez, ça, vous pouvez demander à une infirmière. Bon, en réalité, je suis allé chercher le pot de fleurs, si ça vous rassure. C'est le fait d'une attention du cœur et d'une ouverture à ces réalités humblement humaines Non pas pour nous laisser absorber par l'humain, parce que c'est des gens qui passent, qui restent la tête et le cœur dans le pot de fleurs, c'est ce que je veux dire.
Pour la dame, c'est
absorber.
C'était peut-être ses dernières fleurs.
C'était peut-être, oui, mais c'est pas ça le problème.
Mais non, mais c'était se raccrocher à la vie.
Oui, mais c'est pas ça le problème. Je l'ai pas, je suis pas allé chercher son pot de fleurs pour qu'elle se raccroche à la vie en se raccrochant aux fleurs. J'avais autre chose à lui proposer pour qu'elle se raccroche à la vie, à la vraie vie. Bon. Non, c'était pas ça le problème. C'est simplement que, tiens-toi à ta besogne, colle à la terre aussi, habite la terre. C'est-à-dire que dans cette attention au souci, cette humilité de tenir compte et d'accueillir l'humain, et d'avoir un respect pour cet humain, une attention, même si on ne passe pas à l'action parce qu'on sent que ce n'est pas à nous de le faire, que de fait, si nos prêtres ont commencé à vouloir résoudre tous les problèmes humains des paroissiennes qui passent au confessionnal en racontant leurs histoires et tout ça, en disant « mais moi je connais un qui pourrait vous aider » tout ça, on y passerait notre vie. Non, on n'est pas ça pour ça, mais qu'on puisse écouter l'autre et être attentif à ses réalités humaines avec un cœur vraiment ouvert, s'ouvrir aux soucis. C'est pas se soucier, c'est s'ouvrir aux soucis. Aux soucis de l'autre, aux soucis des réalités. Je dirais avoir ce cœur qui fait que on a une bonté, un respect, une délicatesse par rapport à ces réalités humaines, et qu'en ayant eu l'humilité de les prendre en considération et d'accueillir le poids réel qu'elles ont dans la vie des personnes, qui quelquefois peut nous apparaître des fois un peu disproportionné. L'enfant du catéchisme qui vient expliquer que son chat est malade et que son poisson dans le bocal il va pas bien, et tout ça. Et il dit bon, on fait une prière pour le poisson qui est dans le bocal. On va dire mais on va peut-être prier pour d'autres intentions, tout ça. Mais d'accueillir tout ça, le souci des réalités corporelles et humaines, d'avoir cette ouverture du cœur, de penser que ça le dilate. De manière semblable à la prière, pour s'ouvrir à Dieu. En fait, en vous parlant là, j'ai l'idée que c'est un chemin d'abaissement, d'humilité, de patience aussi, hein, d'accueil de la réalité de la condition humaine, l'incarnation. Il s'est fait homme pour qu'on se réconcilie avec notre humanité qui a des besoins corporels. Et que dans tout ça, il y a un chemin d'élévation et d'ouverture à Dieu. Voilà, maintenant, Benoît XVI dit à la fin, le souci, s'ouvrir, l'ouverture au souci des réalités corporelles et temporelles pour glorifier Dieu. C'est-à-dire dans la conscience que, à travers cette attention, ce respect, cet exercice des vertus humaines, tout ce qui fait qu'on est humain, dans nos relations avec les autres, quand on est dans un respect de l'humain, une attention à l'humain, exercice des vertus humaines, de penser que ça, c'est en définitive pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire à ce moment-là, on laisse passer Dieu aussi à travers des toutes petites choses, mais qui sont vécues, des petites choses humaines qui sont vécues en fait de manière surnaturelle. Parce qu'au fond de notre cœur, on désire que coller à l'appel et à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Non, parce que
et alors,
coller.
On a terminé.
Voilà.
On a terminé.
Et tu es formidable.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen.
Amen.